Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment les communautés font face aux lois homophobes? Un texte de Logan Cartier paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. L'adoption de lois criminalisant les relations LGBTQ dans certains pays africains a aggravé les défis auxquels les populations clés sont confrontées pour accéder aux services de lutte contre le VIH. Comment les communautés s'en sortent-elles? En Ouganda, où la prévalence du VIH chez les adultes est passée de 18 % en 1992 à 5,2 % en 2020, la loi anti-homosexualité menace les progrès accomplis et les communautés ont constaté une recrudescence de la discrimination, de la violence, des arrestations et de la justice populaire. Les professionnels de santé craignent de traiter les personnes LGBTQ. Une équipe d'intervention, formée par le gouvernement et d'autres agences, a coordonné les efforts pour traiter les effets de la loi sur les personnes LGBTQ. Les professionnels de santé ont été formés pour maintenir des services accueillants pour les personnes LGBTQ, et les personnes pères des populations clés ont été soutenues pour effectuer le suivi des personnes, les renouvellements de traitement et les orientations. Au Ghana, où le Parlement a approuvé une loi homophobe, les professionnels de santé utilisent des stratégies communautaires pour maintenir l'accès des hommes gays et bisexuels aux services de lutte contre le VIH. Cela inclut des éducateurs pairs passant de la sensibilisation de groupe à des engagements individuels pour réduire la visibilité publique. Le transfert des tests et des traitements à domicile et dans des lieux sûrs, identifiés par les pairs, et la promotion de la distribution de traitements ARV et de PrEP pour éviter les visites en clinique. Comme le disent les chercheurs ghanéens, chercheuses ghanéennes, l'influence de la législation sur les programmes de lutte contre le VIH est énorme, et elles appellent à un plaidoyer de haut niveau des parties prenantes sur ces effets. C'était « Comment les communautés font face aux lois homophobes », un texte de Logan Cartier paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Le sirop d'érable atténuerait les méfaits d'une alimentation riche en gras et sucre. Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 12 mars 2024 dans Le Devoir. Remplacer par du sirop d'érable une partie du sucre raffiné qui se retrouve dans notre alimentation quotidienne pourrait atténuer certains effets négatifs d'une alimentation riche en graisse et en sucre, suggère une étude menée par une équipe de l'Université Laval. Des expériences menées sur des souris ont ainsi démontré que le sirop d'érable semble réduire la digestion du sucre raffiné, l'absorption intestinale du glucose et l'accumulation de gras dans le foie. Le sirop d'érable, même s'il contient du sucrose lui aussi, possède certainement des molécules qui permettent de protéger contre les effets néfastes d'une surconsommation de sucre, a expliqué à la presse canadienne l'auteur de l'étude, le professeur André Marette, de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Et effectivement, on sait que le sirop d'érable est riche en polyphénols, qu'il contient également certains minéraux, certaines vitamines et même des fibres alimentaires comme l'inuline. Le professeur Marette et ses collègues ont comparé deux groupes de souris soumises à un régime alimentaire riche en graisse et en sucre. Environ 25 % de l'apport en sucre raffiné d'un des groupes a été remplacé par du sirop d'érable, représentant 10 % des calories totales consommées quotidiennement. Ce pourcentage, a expliqué le professeur Marette, correspond à ce qui est envisageable comme modification alimentaire chez l'humain. Par exemple, en utilisant du sirop d'érable dans le café ou dans les recettes. Les chercheurs ont constaté que le métabolisme du glucose était moins altéré chez les souris qui consommaient du sirop d'érable et que le foie de ces souris présentait des concentrations de triglycérides presque deux fois moins élevées que celui des souris qui n'avaient pas consommé de sirop d'érable, a-t-on indiqué par voie de communiqué. Une baisse de l'activité d'une enzyme intestinale serait responsable de cette accumulation moindre de triglycérides. Moins de glucides seraient absorbés et entreraient dans la circulation sanguine, ce qui serait ensuite responsable d'une hyperglycémie plus modeste et qu'une quantité plus faible de glucides transformés en triglycérides dans le foie. L'augmentation de la glycémie qui survient inévitablement lorsqu'on s'alimente est moindre lorsqu'on remplace le sucre blanc par du sirop d'érable, a résumé le professeur Marette. Et en plus, le foie des souris qui avaient reçu du sirop d'érable était en meilleure santé, parce qu'on empêche un peu ces sucres-là d'aller s'accumuler de façon exagérée dans le foie des animaux. On commence à comprendre comment ça fonctionne au niveau mécanistique, a dit le chercheur. Ceux qui veulent ou doivent surveiller les fluctuations de leur glycémie, comme les diabétiques, pourraient donc envisager de substituer les sucres raffinés dans leur alimentation par du sirop d'érable, a-t-il ajouté. Lors de la nouvelle étude, les chercheurs ont par ailleurs constaté une association entre la consommation de sirop d'érable et l'abondance de trois espèces de bactéries qui possèdent des groupements de gènes qui interviennent dans le métabolisme des sucres. Cette découverte sera maintenant étudiée plus en profondeur pour essayer d'élucider le rôle que pourraient jouer ces bactéries dans les effets métaboliques positifs observés chez les souris qui ont consommé du sirop d'érable au lieu du sucrose. Pour le moment, a dit le professeur Marette, les données montrent que le sirop d'érable atténue certains effets négatifs de la consommation de sucre raffiné et qu'il pourrait donc être avantageux de remplacer une partie du sucrose de notre alimentation par du sirop d'érable. L'hypothèse a d'ailleurs été testée chez des humains, et les résultats, qui sont assez concluants, selon le chercheur, pourraient être dévoilés dès cette année. En fait, poursuit-il, toute substitution du sucre blanc par un sucre naturel, comme le miel ou la mélasse, est un bon geste, mais le sirop d'érable se démarque tout le temps. L'étude sur les souris a été rendue possible grâce à l'appui financier des producteurs et productrices acéricoles du Québec, et ce sont les producteurs de sirop d'érable qui prennent le risque, a assuré le professeur Marette. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, mais moi, je publie ce que je trouve, a-t-il dit. Je n'ai pas d'érablière et on rapporte ce qu'on trouve. Les producteurs de sirop d'érable n'ont aucune influence sur les résultats qu'on publie. C'est très important pour ma crédibilité. Le professeur Marette, qui est aussi chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, s'intéresse de près et depuis plusieurs années aux bienfaits du sirop d'érable pour la santé. Il a ainsi publié, l'an dernier, une autre étude qui démontre que le remplacement par une quantité équivalente de sirop d'érable de 5 % de l'énergie totale quotidienne fournie par les sucres ajoutés entraîne une amélioration de certains facteurs de risque cardio-métabolique. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue scientifique American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism. C'était « Le sirop d'érable atténuerait les méfaits d'une alimentation riche en gras et sucre ». Un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 12 mars 2024 dans Le Devoir.
Le docteur Chicoine raconte la grande histoire de Sainte-Justine. Une chronique de Claude Deschênes parue le 5 décembre 2024 dans avenue.ca. C'est ma passion pour l'histoire qui m'amène à vous parler d'un livre sur l'hôpital Sainte-Justine écrit par le docteur Jean-François Chicoine. Que ma chronique soit publiée la même semaine que l'entrée en vigueur de Santé Québec, qui deviendra peut-être une menace à l'indépendance de la célèbre institution pédiatrique de la Côte-Sainte-Catherine, et en plein cœur de la campagne de financement de la Fondation CHU Sainte-Justine, est une coïncidence. Comme vous allez le voir, depuis 117 ans, il y a toujours une bonne raison de parler de Sainte-Justine. En décembre 2024, le Centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine, c'est une équipe de 6 800 personnes, dont 1 800 infirmières et infirmières auxiliaires, 1 100 professionnels, 520 médecins, dentistes et pharmaciens, 800 résidents, 300 chercheurs, 200 bénévoles. L'hôpital, qui compte près de 500 lits, reçoit annuellement plus de 75 000 patients à l'urgence, 218 000 en consultation externe et cumule au-delà de 3 000 accouchements par an. Quel contraste avec la douzaine de lits qui accueillent ses premiers patients en décembre 1907 sous le nom de Sainte-Justine, patronne des enfants malades. Dès les premières pages de son livre, le docteur Jean-François Chicoine insiste sur le fait, très inusité pour l'époque, que Sainte-Justine est une institution fondée et gérée par des femmes, qui plus est, laïques. L'auteur qualifie ces femmes, issues de la petite bourgeoisie canadienne-française, de charitables, croyantes et avant-gardistes. Ajoutons qu'elles n'ont même pas le droit de vote. Si la docteure Irma Levasseur, femme célibataire, et Justine Lacoste-Beaubien, épouse du financier Louis de Gaspé-Beaubien, ainsi que quelques parentes et connaissances, décident de créer un hôpital pour les enfants malades canadiens-français, c'est pour mettre fin à la triste réputation de Montréal d'être la ville occidentale où la mortalité infantile est la plus élevée. Les deux fondatrices ont en commun de n'avoir jamais eu d'enfants. Leurs destinées dans cet hôpital seront, par contre, bien différentes. La docteure Levasseur quitte Sainte-Justine après seulement un an pour ne plus jamais revenir, alors que Justine Lacoste-Beaubien en sera l'âme dirigeante pendant 60 ans. Au fil des 300 pages de ce livre, chaque étape qui a conduit à faire de cette institution un des plus grands hôpitaux pédiatriques en Amérique du Nord nous est racontée, de la mise sur pied de la première école des gardes-malades en 1908 à l'inauguration d'un centre de procréation assistée en 2012, en passant par l'arrivée de la pénicilline en 1944 et l'ouverture du centre de cancérologie Charles Bruneau en 1995. Les avancées réalisées à Sainte-Justine sont répertoriées dans toute leur diversité de spécialités: l'ophtalmologie, la cardiologie, l'orthopédie, la microbiologie, la psychiatrie et tutti quanti. Il y a un biais corporatif assumé et légitime dans cet ouvrage publié par les éditions CHU Sainte-Justine. Pratiquement tous les artisans des succès de l'institution sont mentionnés dans de courtes biographies, parfois répétitives par rapport au récit des exploits accomplis. Aussi, les descriptions sont parfois dans un jargon médical qui peut chloroformer le lecteur non spécialisé. Ceci étant dit, Jean-François Chicoine est trop habile communicateur pour nous laisser sur la touche. On ne peut pas rester de marbre devant toutes ces réussites et premières qui ont eu lieu à Sainte-Justine. Qu'on pense à la première chirurgie cardiaque en 1954, à la première greffe cardiaque pédiatrique au Canada en 1984, au début de l'échographie en 1974. Cette lecture nous permet également de prendre la mesure de l'évolution de la médecine au cours des 100 dernières années. Au début, Sainte-Justine s'intéressait aux bobos physiques des tout-petits, accidents, malformations, empoisonnements. On soigne les moins de 12 ans car au-delà de cet âge, les enfants ont souvent une vie d'adulte, obligés qu'ils sont de travailler. On est encore loin de la médecine de l'adolescence. Ce n'est que graduellement que l'hôpital s'intéresse à l'environnement social des enfants, leur alimentation, leur santé mentale. Ces nouvelles préoccupations de Sainte-Justine mènent à la création de services de nutrition, de services sociaux, à une clinique de la douleur, aux soins périnataux, aux soins palliatifs pédiatriques, même à une clinique d'obstétrique pédiatrique. Si la pratique médicale sous toutes ses formes occupe une place importante dans cet ouvrage, l'auteur s'intéresse aussi au contexte social dans lequel cet établissement unique en son genre évolue. N'oublions pas que l'histoire de cette institution commence dans un Québec patriarcal. Qu'à cela ne tienne, les fondatrices feront de leur mission une affaire de femmes. Le bureau médical a beau être principalement composé d'hommes médecins, le conseil d'administration sera 100% féminin pendant plus de 40 ans. Il faudra attendre le début des années 1950 pour qu'un homme soit admis sur le conseil d'administration. Ratoureuse, Justine Lacoste-Beaubien évite d'effaroucher le clergé omnipuissant. Elle aura des religieuses sous son toit, mais elle les recrute chez les Filles de la Sagesse, une congrégation française qui accepte de soumettre ses membres à des gestionnaires laïcs. La présidente de l'hôpital mène les opérations avec rigueur et ambition, consacrant une partie de sa fortune à sa mission. Sous son règne, Sainte-Justine déménage plusieurs fois dans des locaux toujours plus grands. En 1960, le magazine Commerce la nomme « l'homme du mois ». Mais la réalité rattrape un jour la gestionnaire qui n'arrive pas à contenir le mécontentement de ses employés devant une organisation du travail devenue désuète. Sainte-Justine sera en 1963 le théâtre de la première grève d'infirmières au Québec. Encore une première pour Sainte-Justine. Ce conflit de travail ouvre la voie à la reconnaissance du droit de grève pour les employés de l'État et du secteur de la santé. Ce n'est pas rien, écrit le docteur Chicoine. Notre auteur sait aussi garder notre intérêt en pimentant son récit de quelques moments people qui ont ajouté au fil des ans du vernis à la légende de Sainte-Justine. Il revient, photo à l'appui, sur les visites de personnalités célèbres venues voir de près cette réussite québécoise. Il y a le passage de John F. Kennedy et son épouse Jackie en 1953, celui de Fidel Castro en 1959, la visite de la reine Élisabeth et du prince Philippe la même année. À ce propos, le docteur Chicoine prend plaisir à noter que le couple royal s'est alors adressé au personnel et aux enfants en français. La plus belle anecdote concerne Maurice Richard. Lors de sa venue à Sainte-Justine en décembre 1954, le numéro 9 du Canadien de Montréal annonce qu'il remet à l'hôpital la prime de 1000 $ que lui a valu son 400e but marqué le 18 décembre à Chicago. Ce sera une des nombreuses manifestations de générosité à l'égard de ce centre de soins médicaux de pointe desservant les enfants de tout le Québec. Comme vous le constatez, ce livre est foisonnant. On y découvre aussi combien d'enfants ont été inspirés par leurs parents qui ont œuvré à Sainte-Justine, qu'on pense à la microbiologiste infectiologue Caroline Quashton, dont la mère Min-Min Quash a longtemps été pharmacienne à Sainte-Justine, à la spécialiste du dopage Christiane Ayotte, fille du docteur Robert-Alain Ayotte, qui a dirigé le laboratoire et le département de biochimie de 1954 à 1974, sans oublier l'auteur du livre, Jean-François Chicoine, fils du docteur Luc Chicoine, pédiatre pendant 40 ans, surnommé « Monsieur Sainte-Justine », et de Pierrette Legault, qui a commencé sa carrière comme assistante sociale dans l'ancien bâtiment de la rue Saint-Denis. Ne pensez pas que j'ai épuisé le sujet. Il y a tant à découvrir dans cette histoire de l'histoire de Sainte-Justine, notamment le récit des multiples déménagements de l'hôpital, l'exportation de l'expertise médicale en Tunisie et à Haïti, et la triste fin de vie de ses deux fondatrices. Bref, tel un polar, voilà un livre aux multiples rebondissements et surtout source de beaucoup de fierté, à lire pour se rassurer sur notre système de santé. C'était « Le docteur Chicoine raconte la grande histoire de Sainte-Justine », une chronique de Claude Deschênes parue le 5 décembre 2024 dans avenue.ca.
PME et nouveaux arrivants, Mission impossible, un texte d'André Magny, paru le 16 octobre 2024 dans Le Franco. En temps normal, démarrer une entreprise n'est pas toujours évident. Mais quand, en plus, on est un nouvel arrivant francophone, est-ce possible de se lancer en affaires en Alberta? Flora Isabelle Yao-Epsé-Ngoran, originaire de la Côte d'Ivoire, et Kélissop Marino-Foné, du Cameroun, sont deux exemples de persévérance en matière d'entrepreneuriat. Les deux sont arrivés il y a moins de 2 ans en Alberta. La première, basée à Edmonton, a mis sur pied Fakarel Events and African Fashion en avril dernier. Elle met en valeur ses origines en confectionnant des vêtements et des accessoires africains avec notamment des perles africaines, des pagnes et des chaînes en or. Elle s'est aussi spécialisée dans l'événementiel en proposant un service de décoration d'espace et aussi des mises en bouche. Le second développe Pro Service Cible à Red Deer avec son partenaire d'affaires Armand Fonga. Ils proposent ensemble un service de nettoyage au quotidien ou après sinistre, résidentiel ou commercial, avec comme cheval de bataille le nettoyage des canalisations, l'inventaire et l'emballage des biens de leurs clients. Si le slogan de ProService Cible est « Travaillons ensemble », encore faut-il que ces services soient connus du grand public. Le réseautage n'est pas toujours là, concède l'entrepreneur. Il est important que les francophones sachent qu'une entreprise francophone comme la nôtre existe. Même constat du côté de Mme Yao-Epsé-Ngoran, les gens ne nous connaissent pas. On est à la recherche de clients. Et puisque le démarrage d'une entreprise demande que les jeunes entrepreneurs soient rigoureux au niveau des dépenses, des choix sont à faire et ils n'investissent pas nécessairement dans les outils comme la création d'un site web qui les aiderait à se faire connaître et à présenter l'entreprise. Se faire épauler. Coordonnateur des projets à l'Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society, AJFAS, Robert Suraki-Watum comprend le découragement de certains entrepreneurs. Il a toutefois certains conseils à donner à celles et ceux qui démarrent leur entreprise et insiste notamment sur l'aspect légal. Il est impératif qu'ils aillent s'enregistrer tout en prenant compte du tissu communautaire qui les entoure. Des organismes comme l'Association des juristes d'expression française de l'Alberta, AGFA, ou ceux qui ciblent l'entrepreneuriat, peuvent être de bons conseils afin de les aider à connaître les lois et la réglementation. Les bureaux régionaux de l'Association canadienne française de l'Alberta, ACFA, joue aussi un rôle essentiel en facilitant, par exemple, le réseautage des nouveaux entrepreneurs. En ce qui concerne les entrepreneurs d'origine africaine, il faut aussi, soutient Robert Suraki-Watum, faire de la promotion à l'extérieur de la clientèle de leur communauté culturelle. Il insiste également sur certaines règles de travail à s'imposer pour réussir. Il est important d'avoir une certaine discipline, d'avoir des heures de travail fixes. Enfin, il indique qu'il faut surveiller certains événements organisés notamment par l'AJFAS qui sont susceptibles d'intéresser celles et ceux désireux de monter leur entreprise, comme les séances d'information sur comment devenir un entrepreneur en Alberta, ou encore le Forum des jeunes entrepreneurs noirs. Tout ça afin d'être mieux accompagnés. Mais il existe bien d'autres organismes francophones qui offrent, eux aussi, des services pour les futurs entrepreneurs. C'est le cas de Parallèle Alberta, qui s'occupe particulièrement du développement économique francophone en Alberta. Ce nouvel organisme rassemble maintenant les services en entrepreneuriat, en employabilité et en développement économique communautaire au niveau provincial. Pour Aminé Zabian, entrepreneur dans le passé et gestionnaire des communications chez Parallèle Alberta, il est vrai que l'absence de contact est un défi récurrent pour de nombreux entrepreneurs. Afin de contrer ce problème, il mentionne notamment la création du réseau Impact Entreprise qui permet aux entrepreneurs francophones de se connecter et de bénéficier de plusieurs avantages exclusifs. Au sommaire, des événements de réseautage, un accès gratuit à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, FCEI, et une visibilité accrue au sein de la communauté entrepreneuriale francophone. S'il est également exact, selon Aminé Zabian, que les gens d'affaires francophones concluent encore peu de contrats entre eux, préférant souvent se tourner vers des partenaires anglophones, l'organisation de certaines délégations d'affaires permet de créer des liens solides entre entrepreneurs francophones et facilite également le développement des affaires avec la communauté anglophone. Tout indique qu'il est bon de fréquenter les nombreux organismes francophones afin de se faire une clientèle et de participer à certaines activités communautaires de réseautage qui sont souvent gratuites. Ces quelques pistes permettent aux jeunes entrepreneurs de garder la tête hors de l'eau puisque, comme le dit Célisope Marino-Foné, si on crée une entreprise, c'est pour s'accrocher. C'était PME et nouveaux arrivants, Mission impossible, un texte d'André Magny, paru le 16 octobre 2024 dans Le Franco.